Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 euro par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Agnès Benassiquéré, sous-gouverneur de la Banque de France, professeur à l'École d'économie de Paris, l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de médiation et arguments, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Je peux vous assurer que dès qu'on met héritage et taxes,
voilà. Démonstration.
Taxer plus l'héritage revient à taxer ce qui a déjà été taxé avant, m'écrit Alexis.
Bien sûr.
Jean-Marc m'écrit on ne gagne pas en héritant, c'est juste disposer librement de ses biens sur lesquels on a énormément été taxé. Bordel, termine-t-il. Voilà. Oui. On sent que ça énerve.
Il peut prendre décalement parce que
on peut échapper à l'impôt en fuyant dans un pays libre.
Non, mais absolument. On peut documenter des éléments et je pense que tous ceux qui réagissent de manière allergique peuvent se dire que d'avoir 54 dans sa poche lorsque l'on a touché 100 de son travail, ce n'est pas une situation satisfaisante pour notre pays. Et il faut juste prendre des éléments comparatifs. Je n'ai pas dit qu'il fallait pour autant aller taxer l'héritage pour alléger les charges sur le travail. Mais en revanche, il faut changer notre mix fiscal et de charges pour financer notre modèle social.
L'idée, c'est d'avoir un salaire net qui monte.
Mais je trouve que ce que dit Antoine Fouché est très documenté. Il dit le travail, il restait 70 dans la poche d'un salarié dans les années 70, il en reste plus que 54. Des années 70 à aujourd'hui, c'est systématiquement sur le travail qu'on a fait peser les charges sociales. Et donc ça, ce n'est pas tenable. Ça brise le consensus social autour du travail.
Cet auditeur m'écrit taxer, c'est le seul mot qui revient alors que cela devrait être travailler. Allez, un petit dernier, puis je vous laisse réagir. Marrant que l'unique sujet soit comment récupérer plus d'argent sans regarder comment en dépenser moins dans le pays qui distribue le plus sur le plan social.
Là, c'était le sujet.
On a commencé par parler des dépenses.
Voilà. Continuons. Continuons par rapport à ce que dit Léonidas. Que le travail paie davantage, que le salaire net augmente, quel est l'outil, comment faire.
Non mais attendez, c'est indispensable. On ne peut pas dire réhabiliter la valeur travail alors que la valeur travail est déshabilitée dans les chiffres de
ce qui s'est passé récemment, l'évolution, ça a été quand même plutôt le fait que le SMIC a été indexé sur les prix de la consommation, il a augmenté de plus de 10%, alors que les salaires juste au-dessus du SMIC ont augmenté beaucoup moins, et donc ils se font rattraper par le SMIC, et là il y a une certaine désespérance des gens qui ont été absorbés, qui se retrouvent SMICards, alors qu'initialement ils étaient au-dessus.
Ça, c'est
ça je pense
sujet.
Que c'est un problème majeur,
un problème absolument
qui n'a rien à voir avec la fiscalité.
Ah si, non. Ça a à voir avec la fiscalité, mais pardonnez-moi, parce que lorsque l'on a, je trouve ce chiffre très intéressant,
avec le salaire
lorsque
minimum,
l'on passe du SMIC à un salaire qui n'est plus déchargé parce qu'on dépasse le SMIC, ça coûte 400 ou 450 euros à l'employeur pour augmenter de 100 euros son salarié. Donc si il y a une trappe de SMIC, et à la limite le SMIC devrait être le salaire dans lequel on rentre dans le monde du travail, et on devrait rapidement voir son salaire croître. Il a été totalement déchargé, la marge devient très haute
et tout
le monde devient
SMICard. Je suis d'accord. Mon point, c'était que la fiscalité n'avait pas changé sur les bas salaires depuis 2 ans. C'était mon seul point.
Oui, mais en revanche, il y a la marche qui fait que lorsque l'on passe du SMIC à un salaire qui n'est plus un salaire de SMIC, cette marche est très haute.
C'est la fameuse trappe à bas salaire. C'est la trappe à bas salaire.
Et encore une fois, on en revient à cette même question qui est que, étant donné que les charges de notre modèle social ne reposent que sur le travail, eh bien, ça bloque tout le monde dans des bas salaires. Tout le monde devrait être aspiré vers des salaires plus hauts et ça ne marche plus.
En fait, il faut trouver la solution pour augmenter le salaire net.
Absolument.
Oui. Alors, sur la partie SMIC, c'est le travail de messieurs Bozio et Vasmer qui doit être rendu public là bientôt, normalement. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer après sur l'ensemble des salaires pour éviter de se retrouver effectivement avec une telle ponction.
Et c'est parce parce qu'on a un système fiscal qui est extrêmement bourré de 50 000 taux. Il est tellement complexe que de toute façon, il y a une lecture du système fiscal qui est très compliquée avec des systèmes incitatifs que même l'État, quand il le met en place, n'est pas capable de prévoir. Et je pense que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué et qu'on devrait, enfin bon voilà, moi le leitmotiv c'est de faire un système fiscal qui est facile à comprendre, c'est-à-dire où surtout il n'y a pas beaucoup de taux et surtout même un seul ce serait encore mieux.
Le
et vous
n'auriez
pas cette trappe dans laquelle on est rentré qui est la smicardisation, parce qu'effectivement du coup ce salaire ça devient, donc quand vous cumulez un salaire minimum avec une complexité de la fiscalité, effectivement vous tirez vers le bas les salaires. C'est-à-dire déjà le fait même qu'il y a un salaire minimum déjà en soi de toute façon est un problème.
Mais pardonnez-moi, voilà, moi
je... Allez, Léonidas, on avance parce que...
Je ne suis pas un économiste.
Il y a plein de pays qui n'ont pas de salaire minimum.
Bien sûr.
C'est le dialogue social.
Et ça ne veut pas dire qu'ils sont mal payés.
Oui, il y a des minimales branches. Oui.
Mais je dis que je suis entrepreneuriste parce que je pense que l'entreprise doit être un lieu de consensus
et d'entraînement
collectif de tous ceux qui sont dans cette aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire les salariés, les dirigeants, les cadres. Et pour que ça marche, il faut que tout le monde se dise waouh, on a formidablement réussi. Et la réussite du travail, c'est pour ça que je trouve que le terme est absolument très très mal choisi. C'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est une question de savoir se dire, waouh, je suis heureux, j'ai commencé à travailler. Et avant, je ne travaillais pas et j'étais malheureux. Or, ce décalage-là n'est plus ressenti.
Mais je vois pas en quoi j'ai dit le contraire.
Non, ce que je veux dire simplement, pardonnez-moi, ce
et
que je veux dire,
c'est
que c'est pas uniquement un problème, j'allais dire économique. C'est un problème de consensus social.
C'est quand même le fait que le travail ne fait pas, c'est quand même un problème. Et je pense que les gens qui s'énervent quand on veut taxer aussi leur héritage, c'est que ceux-là qui n'ont gagné effectivement que 54 en mettant de côté pour leurs enfants et on leur dit à la fin tu vas encore payer, ils sont là non mais là faut vous abuser un petit peu. Enfin,
c'est comme la fiscalité sur le capital,
c'est normal
du capital et l'argent
que les gens s'énervent. Parce qu'il y a un moment donné, on est quand même libre de choisir la façon dont on veut distribuer. Alors effectivement, il y a un nouveau problème qui se pose, c'est la longévité, puisqu'aujourd'hui nos aînés, tant mieux d'ailleurs, vivent très très longtemps. C'est vrai qu'on n'hérite plus, du coup. Nous, on hérite très vieux, parce que quand on hérite. Alors effectivement, l'idée d'avoir un héritage, peut-être de signaler aux aînés que peut-être que de donner au fur et à mesure, c'est peut-être mieux. Mais
avec
à nouveau, c'est une libre décision. Enfin, je vois pas pourquoi on interférerait avec les préférences de chacun.
Le fait qu'un retraité garde 86 euros dans sa poche.
Ah ben ça, c'est autre chose, parce que là, c'est d'une socialisation. Donc là, c'est notre modèle aussi.
On peut vivre globalement mieux.
Vous savez combien
en ne travaillant pas que.
Oui. Enfin bon, mais vous savez très bien combien d'économistes aussi essayent de promouvoir la capitalisation et même une capitalisation qui peut être combinée à ce régime plutôt socialisant, et qu'en France on s'emploie quand même avec beaucoup d'efforts à le rejeter. Or, il serait beaucoup plus juste et on n'aurait pas ces situations qui effectivement sont extrêmement étranges.
C'est un sujet compliqué. Oui, je retiens compliqué. En tout cas de ce que vous avez démontré, c'est que c'est pas en jouant au sapeur camembert qu'on apporterait une réponse. Oui. C'est pas si je déplace les trous, que c'est toujours les mêmes, mais il y a forcément...
Oui, et alors, effectivement...
Ce qu'on va vous donner en salaire net, vous allez le payer en conso.
Mais ouais, j'entends bien. Mais bon. Cela dit, le complément de la réflexion, c'est la réforme de l'État. Bon. Et là, il faut dire la vérité. C'est quand même en jachère depuis longtemps.
Est-ce qu'on a été dur avec Bruno Le Maire et l'année 2023, Agnès Benassi-Kéré? Parce que là, l'IGF dit, bon, écoutez, oui, il y a eu un écart substantiel, mais voilà, c'est pas d'abord complètement du jamais vu. Et pour une bonne partie, on pouvait pas l'anticiper. Sous-entendu, non, ils ont quand même bien fait leur boulot à Bercy et le Sénat a eu la dent un peu dure. Hein. Je sais pas.
L'écart sur 2023 est grand et il est dû essentiellement à une erreur de prévision des recettes.
Ce qui est le plus dur à prévoir,
des recettes,
bien sûr.
Et en particulier de recettes très difficiles à prévoir, notamment l'impôt sur les sociétés, les fameuses rentes inframarginales sur les producteurs d'électricité, qui est quand même un prélèvement qui est nouveau. Et là, il y a eu une grosse erreur. Alors, dans l'ensemble, si vous voulez, quand le PIB en valeur augmente de 1% sur longue période, les recettes fiscales augmentent de 1%.
Donc, sur longue période.
Mais il y a des gros écarts selon les années. On est sorti pendant la crise, on avait plutôt une élasticité supérieure à 1. Donc quand le PIB nominal augmentait de 1%, les recettes augmentaient de plus que 1%. Et donc on s'attendait à un retour de bâton. Et donc les services avaient anticipé une élasticité inférieure à 1. Mais elle a été... très inférieur, de 0,4 je crois, donc c'est très très bas, et c'est ça qui a surpris. Ça n'est, dans ce que montre l'IGF, il y a un joli graphique qui montre que il y a déjà eu encore pire, je crois 2013, je crois.
Oui, je crois que c'était 2013 ou c'était.
On a connu pire, alors tout va bien.
Donc ça arrive, et si vous voulez, c'est des erreurs que tout le monde,
des prévisionnistes qui arrivent,
peut faire. C'est pas volontaire. C'est il y avait déjà une marge de précaution avec une élasticité déjà prévue qui était nettement inférieure à 1, et ça a été encore plus inférieur à 1 que ce qu'ils avaient prévu.
C'est bien de remettre les choses au point, parce que c'est vrai que les critiques ont été très acerbes, et d'ailleurs j'en ai été un peu l'auteur aussi, je le reconnais. Donc voilà, on a...
Oh, ça va, vous avez été modeste, parce que moi j'ai connu d'autres qui ont carrément essayé de dire que c'était qu'on nous ment, on falsifie les comptes comme en Grèce. Ça a été très loin.
Non,
mais c'est pour ça. Donc je vous dis, vous avez été
Mais avant ce rapport de l'IGF, je partais du principe quand même qu'il y a des remontées mensuelles à Bercy ou qui sont quand même hyper précises.
Elles ne sont pas toujours hyper précises, justement.
Et que j'étais étonné finalement, il faille attendre le mois de mars 2024 pour réaliser comment c'était terminé 2023. Mais il y a des éléments d'explication qui permettent peut-être de mieux le cerner.
Je voudrais quand même, parce que vous posiez la question de savoir quel est le bilan de Bruno Le Maire, je trouve quand même que c'est un bilan qui est... alors, sur les comptes publics, je pense que tout le monde à Bercy regrette ce dérapage. Mais je trouve qu'il y a un raisonnement qui tient totalement la route, qui est de dire, imaginez ce qu'aurait été le coût d'une économie française, de nos entreprises, si elles avaient globalement subi le choc frontal.
Ah, le contrefactuel. Serions-nous si nous n'avions rien fait?
Voilà.
Ah bah là, c'est sûr qu'avec l'économie sous cloche en 2020, oui.
Alors, entre l'économie sous cloche, vous allez me dire, il y a d'autres pays qui ont subi le Covid, qui ont subi l'inflation.
Je pourrais vous le dire, oui.
Voilà, qui ont subi l'inflation.
Et la Suisse aussi, a regardé ces différentes confédérations pour savoir là où ça avait été le mieux aussi. Alors, ça avait plein d'expérimentations.
Je ne suis pas totalement certain que nous puissions comparer la France et la Suisse, mais néanmoins, je pense que la lucidité de locataire de 7 ans de Bercy sur ce qu'il fallait faire pour redresser nos comptes durablement était bien là, et qu'il a tenu l'économie. Enfin, moi, je pense qu'il a été à l'écoute permanente des entreprises, des entrepreneurs, et que cette politique de l'offre ne doit certainement pas être détricotée.
Mais tout le monde admet que la politique de l'offre a eu des effets positifs sur les entreprises.
Tout le monde, je ne sais pas.
Le point négatif, c'est les pertes de gains de productivité, et le point négatif, c'est les comptes de la nation qui sont quand même très déséquilibrés. 15,2 points de dette de plus par rapport à l'avant-Covid, quand c'est 3,7 points en Allemagne, moins de 6 points en Espagne, moins de 5 points en Italie. Même Covid, même choc énergétique, même devise, même banque centrale, même politique monétaire. Bon, c'est très bien, mais tout le monde considère que c'est allé trop loin, trop fort. Voilà. Et par exemple, on a mis 8 milliards sur le carburant de manière un peu dingo en 2022, pour un effet finalement qui était relativement à l'arrivée sur un bénéficiaire, ça lui faisait 100-110 euros sur les 8 mois d'économiser.
Oui, j'entends bien. À peu près pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles on entend des choses totalement farfelues en ce moment, c'est-à-dire que nous avons une société française qui est inflammable. Et un donc, peu, oui. On a un peu quand même l'instinct, quels que soient les responsables politiques, de mettre l'arrosoir monétaire et financier sur toutes les crises pour essayer d'éteindre les incendies. Et ça, effectivement, ça fait des rappels aux comptes publics.
On avait ouvert le feu avec l'héritage, maintenant c'est la TVA sociale. Chacun a sa lecture et son avis. Ce débat m'intéresse. La Banque de France a publié des notes. Agnès Benassi, je vous laisse m'en sortir les conclusions principales que vous avez en tête, notamment ce fameux indicateur d'incertitude. Qu'est-ce que vous retenez de la moisson Banque de France de la semaine dernière?
Alors, la semaine dernière, nous avons sorti de nombreux documents. D'abord, une photographie des entreprises à la fin 2023, et qui est plutôt positive, en fait. Hein. Donc, ça rejoint...
Ça n'allait pas si mal.
Ça n'allait pas si mal. Un taux de marge qui est stable, voire en légère augmentation. Une trésorerie qui diminue, mais qui reste très nettement au-dessus de 2019, et encore plus de 2012. Enfin, c'est quand même impressionnant. En 2012, 30 jours pour les PME, en moyenne 30 jours de trésorerie. En 2019, en moyenne 40 jours. Et en 2023, 55 jours. Or, dans les enquêtes, les entrepreneurs s'inquiètent beaucoup de leur trésorerie. Donc là, il y a un petit écart, comme si aujourd'hui, la norme, c'était une trésorerie plus importante. Alors, cette trésorerie fait qu'ils ont bien encaissé aussi initialement la hausse des taux d'intérêt, puisque en fait la trésorerie également est mieux rémunérée, et donc on a même eu une amélioration en 2022 initialement. Bon, bien sûr, donc dans un autre document qui est le rapport sur la stabilité financière, on fait des projections, on propose des projections sur la couverture des intérêts par les bénéfices, et pour des entreprises, les entreprises dites vulnérables, donc ou même fragiles, on a une hausse de la proportion de ces entreprises dans les qui est prévu pour les deux années à venir, mais qui reste gérable. C'est pas un mur, c'est pas extrêmement inquiétant. C'est une photographie, encore une fois, avant les élections. Alors, on a publié aussi une enquête de conjoncture, et c'est ça là que vous vouliez en venir, avec une augmentation quand même assez spectaculaire de l'indice de incertitude rapporté par les chefs d'entreprise, qui arrive à un niveau qui reste inférieur, mais quand même assez proche du niveau 2022. Les chefs d'entreprise qui parlent de d'un arrêt de l'investissement, de arrêt des commandes, arrêt des embauches, etc. Donc, c'est pas forcément durable, mais ça montre quand même la réactivité par rapport à la situation, hein. Cette enquête a été faite à cheval, au mois de juin. Donc avant le deuxième tour, et donc l'importance de lever les incertitudes sur quelle va être la stratégie économique et budgétaire dans les années à venir, ça c'est vraiment un point extrêmement important pour que l'assiette fiscale ne disparaisse pas, c'est-à-dire que y ait de l'activité ces efforts qui ont été faits dans les années à venir dans la politique de l'offre ne soient pas anéantis, ce qui entraînerait encore plus de problèmes budgétaires dont on parlait avant. Donc il y a un ensemble de... Alors ce qu'on voit aussi, c'est une baisse de l'endettement des entreprises, hein, qui s'était arrêtée évidemment avec le Covid, mais qui a repris. Et donc ça c'est aussi une... Et en net, c'est encore plus visible, puisque comme la trésorerie a augmenté, en net, la dette nette diminue de manière continue. Donc ça c'est aussi des points qui
le
sont
PGE a bien
positifs.
Fonctionné,
donc l'État est plus sensible aujourd'hui qu'avant à la hausse de taux d'intérêt. Le PGE a été pour plus de la moitié remboursé, donc il en reste.
Plutôt une bonne affaire pour les banques,
plutôt,
si j'en comprends bien.
La photographie à fin 2023 était plutôt positive, et là on a la dernière enquête, c'est un petit signal d'alarme, on espère qu'il va se résoudre rapidement.
Et c'est pour ça que je trouve que ce rapport de la Cour des comptes sonne différemment cette fois-ci. L'ambiance n'est pas la même. J'ai rencontré à Aix-en-Provence des économistes qui se demande quand même il faisait jour, paf, il fait nuit, quoi. Et tout le monde pensait que le soleil ne se coucherait jamais, parce que too big to fail, parce que la France éternelle, parce que jamais de défaut depuis les assignats d'après la Révolution. Et ouais, mais attention, comme dit François Eccal, ne dites jamais jamais. Je vous ai promis qu'on parlait du Bitcoin, Nathalie Janson. Alors, je ferai peut-être de l'inflation, mais voilà, l'attentat contre Donald Trump a dopé le Bitcoin. Le voilà qu'il repasse les 60 000 dollars. Ben voilà ce qu'il fallait pour relancer le Bitcoin, n'est-ce
pas ? Exactement. C'est les Bitcoiners qui ont donc commandé un petit jeune. Un petit jeune, donc ça tombe bien.
Les théories du complot, si vous n'avez pas suivi depuis hier, c'est juste phénoménal.
Oui, voilà, donc celle-là, une de plus. Bon. Sans doute, le jeune homme, il faudra regarder s'il n'a pas des Bitcoins quelque part. Il a été sollicité par le groupe Soutien Bitcoin pour essayer de le faire remonter, puisqu'effectivement, ça fait quelques semaines qu'il était plutôt à la baisse. Et trêve de plaisanterie. En effet, en fait, ce qui se trame au-delà de l'effet donc plutôt positif sur le Bitcoin, c'est qu'effectivement, aux États-Unis, on continue à parler de réglementation. On avance un peu plus vers des pistes un peu plus sérieuses qu'avant. Et comme Donald Trump est en effet devenu pro-Bitcoin, puisqu'il a même des donateurs en Bitcoin, le fait qu'il serait, s'il est élu, il y aurait peut-être moins de chances pour que la réglementation soit, sévère, plus marquée sur les crypto-monnaies. Donc je pense qu'effectivement, là, il y a effectivement une explication, c'est que Trump a une appétence au Bitcoin que Biden n'a pas, et que ces lois qui tournent en rond depuis depuis, en tout cas ces textes législatifs qui tournent en rond depuis 2-3 ans, si c'était Trump, on aurait peut-être un résultat moins sévère sur l'industrie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a, il a sans doute eu cet effet positif.
Bon, ben voilà, c'était court mais bon. Hein,
c'est ça voilà.
Un peu d'inflation, ou qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Oui. On a 4 minutes 30. Vous irez voir, j'ai pas tout lu, mais vous irez voir la une du Parisien qui fait parler des avocats spécialistes qui expliquent qu'il y a quand même des candidats à l'exil. Hein. Il y a quand même des gens qui commencent à se poser des vraies questions, notamment à cause du projet fiscal du nouveau Front Populaire.
Mais il est très clair.
Là, c'est trop de la politique de l'offre.
Non, mais on est bien d'accord. Mais j'aimerais juste répondre à vos auditeurs qui s'offusquent du fait que l'on puisse réfléchir globalement à autre chose.
Il n'y a pas que des avis négatifs.
Non, mais sur la question de la TVA.
Nicolas, vous n'auriez jamais dû lancer le débat.
Rassurez-vous, c'est pas pour recommencer. Non, il y a la nécessité de regarder comment les équilibres peuvent bouger. La situation n'est pas satisfaisante. Ce que je voudrais globalement dire, et la position qui est la mienne, j'allais presque dire de porte-parole de l'offre et des entrepreneurs, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'un décrochage social comme celui que nous avons avec des revendications de hausse de salaire, ce que la gauche porte et qui nous inquiète, il faut qu'on soit capable d'y répondre convenablement mieux et en préservant un équilibre dans nos entreprises. Mais on ne peut pas rester sourd au fait
à l'expression de plus de 10 millions de personnes, de presque 20.
Oui. De presque 20.
Mais oui, mais non, mais c'est clair.
Et de continuer à se dire, non, on était dans le juste, dans le vrai, et la politique de l'offre, ça marche, et puis un jour viendra où tout le monde sera content, même si l'horizon s'éloigne. Non, il y a un problème, et il faut qu'on arrive à le résoudre. Et j'allais dire, il faut qu'on arrive à le résoudre entre gens raisonnables, même parmi vos auditeurs.
Ah, mais j'en ai plein des très raisonnables. Hein.
Bon, ils peuvent s'offusquer du fait qu'on puisse réfléchir au fait que là, globalement, il y a quelque chose qui est parti un peu en vrille et qu'on doit être capable de le corriger. Je crois que c'est notre travail, notre responsabilité à nous de prendre le problème et d'y apporter des réponses.
Agnès, vous vouliez réagir? Agnès
Benassi-Carré. Pour clarifier le débat sur la fiscalité, je crois que c'est utile de séparer deux sujets. Un premier sujet est comment redresser les finances publiques et est-ce que la fiscalité fait partie de la solution malgré le niveau de prélèvement obligatoire aujourd'hui qui est quand même très élevé en France. Et la deuxième question, c'est est-ce que la répartition des impôts est optimale en France? Et là, on peut effectivement... Donc, la TVA sociale, c'est plutôt dans ce deuxième paquet que dans le premier. C'est ça que je voulais dire.
Totalement d'accord avec vous.
Donc, on peut y réfléchir pour mieux rémunérer le travail et taxer plus la consommation. Bon, mais... C'est pas ça qui va résoudre l'équation fiscale et réduire le déficit. C'était juste ça que
je vous entends. Les deux sujets existent.
Je termine 1 minute 40 très rapidement sur l'inflation avec vous. Tout le monde, si on a le temps, on n'aura pas le temps. En deux mots, Patrick Artus dans les Échos dit: ne croyez pas que l'inflation est vaincue. Voilà, c'est une illusion. Tout ce qui freine l'inflation aujourd'hui est transitoire et va disparaître en 2025. Les importations ont baissé parce que le prix des matières premières a baissé, mais ça ne durera pas. Les marges des entreprises ont baissé, mais elles vont se stabiliser et les tensions sur le marché du travail sont bien là avec des revendications salariales, donc ça va repartir.
Le sujet de l'inflation, je ne vais pas reprendre mon bâton habituel, mais je pense que le sujet de l'inflation s'est beaucoup complexifié à travers le temps et ça n'a pas été pris en compte dans les indices qu'on utilise pour mesurer cette inflation. Voilà, je ne vais pas reprendre le chapitre, comme d'habitude, sur l'inflation des actifs, qui devrait aussi de l'immobilier, de plein de biens qui devraient être dans cet indice parce qu'effectivement, l'entrée de la monnaie et sa diffusion a changé depuis maintenant une vingtaine d'années. Par contre, comme les auditeurs pourront le constater s'ils vont voir certains graphiques qui sont publiés, on voit bien que depuis 2008, on a eu une augmentation considérable des bilans des banques centrales, puisqu'ils ont fait entre x5 et x8, et comme par hasard, on a une augmentation continue des dettes publiques au niveau mondial. Donc il y a un chiffre qui est paru ce matin donné par au niveau des... Je crois que ça doit être le FMI qui l'a quand même donné, ce chiffre, où en fait on est à 90 000 milliards de dollars de dettes souveraines au niveau mondial, et pour la première fois sans Covid, on a dépassé à nouveau les 100% de PIB. Donc il y a bien un problème quelque part, effectivement, qui est lié à de la liquidité qui est là. Et cette liquidité, effectivement, vient alimenter des hausses de prix et elle va fluctuer selon les circonstances économiques. Le Covid a donné des bouchons d'étranglement, on l'a vu dans les prix à la consommation, et on verra peut-être d'autres bouchons se faire autrement. Ou, voilà.
Merci. Donc, merci Nathalie Janson, Agnès Benassi-Kéré, Léonidas Calogéropoulos. Rendez-vous demain 9h.
Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.
Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/test. Rendez-vous sur shopify.fr/test pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.